de France Culture, une mémoire radiophonique.
Devenir immortel. L'écrivain Roger Caillois en rêvait peut-être secrètement, ou peut-être pas secrètement du tout. L'homme, dit-on, était ami des institutions et il ne boudait pas les reconnaissances officielles. En janvier 1971, son élection à l'Académie française marque la consécration de son œuvre, une œuvre exigeante, souvent complexe, et surtout extraordinairement variée, du conte philosophique au traité sur tout type de questions littéraires, politiques, philosophiques ou scientifiques. L'annonce publique de son entrée prochaine à l'Académie est donc, pour Roger Caillois, l'occasion de donner lui-même quelques clés de compréhension de son travail. Dans l'émission que voici, il se fait son propre exégète et recommande deux de ses ouvrages, le récit romancé Ponce Pilate et le recueil poétique Pierre, deux portes d'entrée dans une œuvre inclassable. Voici donc Roger Caillois dans l'émission Salle de rédaction, première diffusion de cette émission le 25 janvier 1971.
Nous allons peut-être faire quelques pas dans l'immortalité avec justement Roger Caillois, puisque c'est le 14 janvier que vous avez été élu à l'Académie française, au fauteuil de Jérôme Carcopino. Et quand on vous voit succéder à Jérôme Carcopino, on est d'abord frappé par le contraste. Car Jérôme Carcopino était l'homme d'une spécialité, c'était l'histoire romaine. Son temps, c'était celui de Cicéron, il était le contemporain de Cicéron, le contemporain de Virgile. Or vous, je me demande si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas cherché à être le spécialiste de la non-spécialité. Vous avez fait mille choses. Vous êtes normalien, vous êtes agrégé de grammaire, vous avez créé chez Gallimard la collection La Croix du Sud, vous êtes sociologue. C'est déjà un discours. Vous naquitte, monsieur. Eh bien.
Qu'est-ce qu'il va vous recevoir?
Je pense que c'est René Huyghe et je m'en félicite.
Ah, bon.
C'est un théoricien de l'art, comme je le suis aussi. Vous n'avez pas parlé de
l'art.
J'allais y arriver, justement. Vous vous êtes intéressé beaucoup à l'art abstrait aussi, et vous nous avez entraînés à travers vos livres vers le mystère, vers le fantastique, vers l'insolite, etc. Et vient de paraître un livre dans la collection des poètes d'aujourd'hui chez Segers, le livre d'Alain Bosquet, Roger Caillois. Donc Roger Caillois, poète aussi. Alors, je voudrais vous cerner. Au fond, je me demande si le commun dénominateur de tout ça, ce n'est pas finalement la recherche de l'homme. L'explication de l'homme à travers des chemins différents.
Oui, c'est peut-être pour cela que j'ai nommé la revue internationale que j'ai fondée, dont je suis rédacteur en chef, que je l'ai nommé Diogène.
Vous cherchiez un homme.
Je ne l'ai pas nommé Diogène pour ça. C'est parce que, comme il fallait une revue internationale, j'étais forcé d'avoir un titre qui fût le même dans les différentes langues. Oui. Mais en effet, Diogène cherche un homme avec sa lanterne. Oui. Et je me souviens d'une phrase que j'ai lu, je ne sais plus où, où il dit « Diogène cherche un homme avec sa lanterne et non pas un cabotin comme celui qui l'éclairerait s'il la retournait vers lui-même.
» Oui, et en effet, vous l'avez même cherché à travers le mimétisme animal, le mimétisme végétal. Enfin, par conséquent, je voudrais que vous m'expliquiez davantage le fil conducteur de tout cela.
Eh bien, écoutez, vous êtes parti en disant que Jérôme Carcopino était un historien de Rome qui vivait au temps de Cicéron, mais j'ai commencé mes études comme latiniste. Je me suis même inscrit pour une thèse qui a été interrompue par la guerre, que je n'ai jamais écrite, sur le vocabulaire religieux des Romains. J'étais alors l'élève de Mauss et de Dumézil. Et puis en même temps, j'allais tous les soirs à la table du café de la Place Blanche retrouver André Breton, si bien que la dichotomie que vous avez évoquée a existé dès l'origine.
Oui,
le surréalisme, d'ailleurs je me trompais sur le surréalisme, je croyais que c'était la fin de la littérature, je croyais que c'était la substitution à une espèce de littérature fluide ou vague de l'étude des procédés de l'imagination. Et c'était cette même étude des procédés, des démarches de l'imagination que je recherchais dans les phénomènes religieux et mythologiques. Et puis je me suis aperçu que ça n'était pas cela, et c'est l'origine d'une rupture, d'ailleurs très très courtoise, et qui s'est effectuée dans les meilleurs termes, avec André Breton, quand j'ai quitté en 1934-35, quand j'ai quitté le surréalisme, et à ce moment-là, j'ai été tout à fait disposé, je m'y efforçais, à continuer mes études sur l'imaginaire, dans la sociologie et dans l'histoire des religions. C'est à ce moment-là que j'ai écrit mes livres « Le mythe et l'homme »,« L'homme et le sacré », etc. Mais c'est toujours la recherche de ce que j'appelle maintenant la logique de l'imaginaire, que j'ai recherché dans les rêves, dans le fantastique, même dans les lois et les errements de la guerre, dans les règles de la poésie aussi.
Et même dans, les
dans
jeux.
Dans l'image.
Même dans les jeux.
Dans les jeux, dans la classification des jeux. C'est la logique des jeux que j'ai recherché dans les jeux, beaucoup plus que le côté anecdotique.
André Béa, dites-vous que vous étiez un romantique qui se veut classique. Est-ce que écoutez, c'est une formule qui vous hérisse, qui vous
non,
plaît?
Non, elle ne me hérisse pas, mais je crois fondamentalement romantique. Mais alors intervient une autre donnée. C'est mon goût de la langue française, mon goût de la phrase. Plus que du vocabulaire d'ailleurs, surtout de la syntaxe. Et je crois que c'est ce qui fait croire à beaucoup que je suis fondamentalement classique. Mais je suis classique dans la forme, pas du tout dans les aspirations, dans les préoccupations, dans les ambitions. Ça, c'est tout le contraire.
D'ailleurs, ça se voit très bien, notamment dans votre dernier livre encore, Les cases de l'échiquier, où là, on sent justement cette curiosité toujours en éveil et qui va dans des sens, je ne peux pas dire opposés, mais divergentes.
Ah oui, ça, je me suis défini dans la lettre que j'ai écrite à Alain Bosquet, justement, quand il m'a donné très courtoisement en communication le texte de son étude. Je me définis comme un petit chaperon rouge. Mmh. C'est-à-dire que tout le long du chemin, mais en allant toujours vers le même but, qui n'était pas porter un pot de beurre à la grand-mère, mais enfin quelque chose comme ça, tout de même, aussi léger, d'ailleurs aussi important,
Est-ce que vous avez rencontré le loup au bout du chemin?
Tout le temps.
Oui. Alors c'était l'Académie.
ça c'est possible. Mais vous savez, on apprivoise les loups. Et on est apprivoisé par eux aussi. Oui. Mon attitude a toujours été une attitude d'osmose, pas une attitude d'opposition.
Un mauvais esprit aurait dit que l'Académie c'était plutôt la grand-mère.
Roger Caillois, vous avez été attiré très tôt par, disons, ce qu'on appelle le fantastique, ce que vous appelez aussi le fantastique, par exemple dans votre anthologie de textes fantastiques, cet énorme travail que vous avez fait. Comment réagissez-vous à ces manifestations récentes et quelquefois un peu trop tapageuses, à un certain fantastique, comment dirais-je, je ne sais pas comment le qualifier sans nommer d'entreprises qui lui sont attachées.
Voyant.
Un fantastique un peu voyant, un peu commercial, disons, qui nous submerge. Et insolent, qui nous submerge, n'est-ce pas?
Écoutez, je ne sais pas très bien à quoi vous faites allusion.
Ma position,
alors ça, c'est pour moi, c'est très clair, c'est du charlatanisme.
Oui, ça doit vous hérisser.
Ça me hérisse. Oui, maintenant, pour moi, il ne peut pas y avoir de fantastique agressif, turbulent. Le fantastique, pour moi, est insidieux. Oui. C'est-à-dire qu'il doit se faufiler dans la réalité.
C'est ça.
Et il ne doit pas se montrer fantastique. Il faut qu'il donne un choc à des gens qui ne s'y attendaient pas. Et c'est pourquoi, à mon avis, les très grands auteurs fantastiques, par exemple du 19e siècle, au moment du fantastique de terreur, ce sont tous des auteurs réalistes. C'est Dickens, c'est Gogol, c'est Balzac.
C'est Maupassant.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut crever l'armature quotidienne des faits, de la chaîne des causes et des effets, d'une façon ou bien brutale, c'est la rupture, ou bien insidieuse, c'est-à-dire en montrant que tout ne se passe pas comme d'abord on avait cru qu'elle se passait.
Oui. Vous rejoignez, d'ailleurs, vous dites d'une façon peut-être sûrement même meilleure, parce que ce n'est pas son métier, Christian de Chalonge, de s'exprimer avec des mots, mais vous rejoignez très exactement, c'est dommage, je n'avais pas été là au début de l'émission,
que
l'auteur de L'Alliance, un film récent que vous auriez peut-être intérêt à voir, ou plaisir à voir, qui est un film qui va tout à fait... Vous rejoignez exactement ces propos tout à l'heure sur le fantastique insidieux, naturel, et non le fantastique proclamé.
Je crois que c'est la ligne française aussi. C'est le tempérament français de ne pas faire ce divorce entre le fantastique et le quotidien. Je crois que c'est moins net, par exemple, avec l'Allemagne. Fantastique germanique.
J'ai été très embarrassé quand j'ai fait mon anthologie pour trouver des textes allemands. Il y en a, mais c'est surtout des textes récents. Ou relativement récent, des textes qui datent d'une quarantaine d'années. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un texte d'Hoffmann. Pour moi, les textes d'Hoffmann sont plus merveilleux que fantastiques.
C'est ça.
Ouais, le seul que j'ai trouvé qui était fantastique, c'est-à-dire qu'il ne se passait pas tout de suite dans une atmosphère merveilleuse où tout était possible. Mais si tout est possible, il n'y a pas de fantastique.
Bien sûr.
Puisqu'on admet tout de suite que tout est fantastique. Chez Hoffmann, le conte que j'ai trouvé le plus fantastique, mais qui fait un peu exception dans son œuvre, ce sont les mines de Falun.
Oui. Je vais vous poser une question très journalistique. Vous ne m'en voudrez pas, une émission qui s'appelle Salle de rédaction. Pour un auditeur qui nous prend ou qui vous prend en marche en ce moment et pour qui votre nom n'est pas très connu et qui aimerait lire un livre de vous, quel est celui, c'est une question, je l'ai dit, très journalistique, quel est celui que vous aimeriez qu'il lise de préférence aux autres?
Eh bien, ça dépend. Bien sûr. Je n'ai jamais écrit de roman, je n'ai pas d'imagination.
Mais
il y a Ponce Pilate.
Ah, il y a Ponce Pilate.
Il y a Ponce Pilate, qui est un petit roman, si on veut, qui est dans mon esprit plutôt un traité théologique qu'un roman. Oui. Il s'agit de savoir si l'on peut demander aux hommes au nom des hommes ce que les religions demandent à l'homme au nom de Dieu, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est une question de théologie. Alors il y a ça que je conseillerais, si vous, êtes assez aimable pour me le demander, à des lecteurs qui aiment que leur attention soit soutenue par une intrigue. Encore que l'intrigue, dans ce cas-là, est très connue. Seulement,
la
réflexion est différente. Oui. Et puis, la conclusion est la même, puisque Ponce Pilate libère le Christ et qu'il n'y a pas de christianisme.
C'est ça.
Mais c'est le livre que je préférerais, c'est Pierre. Hein, c'est ma description de minéraux et puis les réflexions que j'en tire pour une espèce de...
C'est là que vous pensez avoir dit...
De sagesse, de testament.
Ponce Pilate d'un côté et Pierre de l'autre. Bien.
C'était Roger Caillois au micro de Jean Dalvez, Roger Régent, Philippe Hénault, André Bourin, Georges Charansol. Réalisation de cette émission, Georges Godbert. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 25 janvier 1971. Vous pouvez la réécouter en ligne et la podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des nuits et sur l'application Radio France.